Donc ce message est le troisième volet d'une méditation sur le verset 13 du chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, nous avons eu l'occasion de méditer sur la foi, sur l'espérance, et aujourd'hui nous allons méditer sur l'amour. L'amour. Pourquoi l'amour est-il plus grand que la foi et l'espérance? La réponse, en fait, nous est donnée un peu plus haut, au verset 8. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour, il dure éternellement. La foi disparaîtra, puisque la foi concerne les choses que nous ne voyons pas, nous avons vu cela, la foi disparaîtra quand nous verrons le Seigneur face à face. L'espérance disparaîtra quand nous serons introduits dans la présence de Dieu et que notre attente sera ainsi comblée. Mais l'amour ne disparaîtra pas, car il est dans la nature de Dieu, et que Dieu est éternel. Donc, l'amour ne périt jamais, il dure éternellement. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et au verset 16, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Ce verset 13 que j'ai pris comme point de départ de ces trois méditations est en fait un verset de conclusion. Il termine ce merveilleux chapitre écrit par l'apôtre Paul sur l'amour. Un des plus beaux textes écrits sur ce que doit être le véritable amour. Un joyau transmis par Dieu à l'humanité. Il a été cité et lu tant de fois. Depuis 2000 ans, cela a nourri et inspiré un nombre incalculable de croyants. Alors relisons ensemble ce chapitre 13 de 1 Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'apôtre nous montre une voie par excellence, celle que nous devons suivre. Ce qui est le plus important, ce ne sont pas les dons spirituels dont il nous a parlé dans le chapitre 12. Parler dans d'autres langues, donc qui est recherché dans beaucoup d'églises. La prophétie, la compréhension des mystères de Dieu, la connaissance et même la foi que nous réclamons, bien sûr, pour faire des miracles. Les dons que l'on fait, hein, les dons financiers que l'on fait aux pauvres, et même le sacrifice de notre vie, tout cela, toutes ces choses qui sont pourtant bonnes, si elles sont faites pour attirer le regard sur soi ou la gloire sur soi, sont inutiles et ne servent à rien. C'est difficile comme parole parce que beaucoup de personnes se disent « Ah, celui-là, il a donné autant de millions. Ah, c'est bien. Ben, » oui, c'est bien, mais l'apôtre nous dit que c'est inutile, ça ne sert à rien si c'est fait pour attirer l'attention sur soi. Si on donne un gros chèque et qu'on le montre à tout le monde, à la télévision, au monde entier, « J'ai fait ce don-là. » Si c'est simplement pour faire de la pub ou pour attirer la gloire sur soi, ça ne sert à rien. En tout cas, aux yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas faire du bien matériellement à des personnes, mais tout cela ne sert à rien. Mais toutes ces choses, si elles sont faites avec amour et par amour, sont utiles et ont un sens, une valeur. La connaissance enfle, mais l'amour édifie, dit Paul au chapitre 8. Édifier, bâtir, faire du bien à l'autre, au prochain, c'est ce que Dieu attend de nous. Et cela, tout le monde peut le faire. Pas besoin de beaucoup de connaissances, pas besoin de beaucoup de foi. Pas besoin d'argent pour aimer son prochain. L'Église a besoin de ministères. L'Église a besoin de serviteurs. Elle attend des manifestations spirituelles et des miracles. Mais ce dont l'Église a le plus urgemment besoin, c'est de l'amour. Romains 12. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. par honneur usé de prévenance réciproque. La première lettre de Jean au chapitre 4, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est ainsi que nous manifesterons au monde le caractère de Dieu. L'apôtre Jean parle de commandement ancien et à un autre moment il dit et un commandement nouveau. L'amour de Dieu et du prochain était déjà dans l'Ancien Testament, mais il prend un sens nouveau quand le Fils de Dieu, Jésus, vient mourir sur la croix. Paul dit aux Romains, au chapitre 13, « L'amour ne fait point de mal au prochain. » L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Souvent, on se pose la question par rapport à la loi, par rapport à l'Ancien Testament. Est-ce que la loi est toujours valable? Est-ce qu'il faut appliquer la loi? Mais si on applique l'amour, si on vit l'amour, eh bien, on applique la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Dans le Deutéronome, chapitre 6, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et dans le Lévitique au chapitre 19, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et Jésus lui-même, il ne peut pas en être autrement puisqu'il est la parole vivante de Dieu. Jésus avait résumé la loi dans ces deux commandements, donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans l'évangile de Matthieu, on le lit au chapitre 22. Et il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout dépend de ces deux commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et donc, c'est dire leur importance. Et on comprend donc que l'apôtre Paul nous dise que c'est la voie par excellence. Du verset 4 au verset 8, Paul nous dit ce qu'est l'amour ou ce qu'il n'est pas, ce que fait l'amour ou ce qu'il ne fait pas. L'amour est patient. Être patient avec les autres, comme Dieu l'est avec nous-mêmes. De Pierre 3, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Combien de fois sommes-nous impatients avec autrui, alors que Dieu doit l'être avec nous, et alors que d'autres personnes doivent être patients avec nous-mêmes. Donc, la patience manifeste l'amour que nous avons. L'amour est plein de bonté. Nombre 14, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Psaume 145, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Proverbe 19, 22, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Tout ce caractère de Dieu qui est l'amour, nous sommes appelés à le manifester nous-mêmes dans notre vie, nous qui avons compris l'amour de Dieu. L'amour n'est point envieux. C'est bon de nous le rappeler dans ce monde où nous sommes sans cesse activés dans nos envies. Exode 20, 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. ni sa voiture, ni... Enfin, actualisons tout cela. Hein? Dans le Proverbe, chapitre 28, il est dit aussi, nous, un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Combien nous voyons dans ce monde beaucoup de personnes qui veulent s'enrichir le plus rapidement possible, qui placent leur argent à la bourse en espérant que ça va faire des gains énormes, etc., etc. Enfin, toutes les manières de chercher à s'enrichir rapidement. Et Jacques nous dit, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. L'envie n'entraîne que la rivalité, les luttes et les querelles. L'amour ne se vante pas. Jacques, encore au chapitre 3, nous dit « De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. » Paul rappelle aux Éphésiens que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, ou dans, selon les versions, afin que personne ne puisse se glorifier. Se glorifier, se vanter. Il dit aussi aux Corinthiens, au chapitre 11, dans la deuxième lettre, « S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. » Qui, dans ce monde, cherche à se vanter en montrant sa faiblesse? Et pas ça qui arrive la plupart du temps. On montre notre beau côté, nos forces. On ne montre pas nos faiblesses. Il faut montrer ce qu'on sait faire. Voilà, se vanter, c'est propre à ce monde. Mais l'amour ne le fait pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Proverbe 13. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Au chapitre 16, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et au chapitre 18, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Et Paul, toujours lui, dit en Éphésiens chapitre 4, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Dans son Cantique des Cantiques, Salomon dit « L'amour est fort comme la mort. » Il parlait, bien sûr, de l'amour humain. Mais depuis que Jésus est mort sur la croix par amour pour nous et qu'il est ressuscité des morts, nous pouvons dire l'amour est plus fort que la mort. L'amour a vaincu la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que faire, frères et sœurs et amis, que faire face à la souffrance? Face à la maladie, face à la mort, face aux souffrances extérieures, face aux souffrances intérieures et cachées, mais bien réelles. Comment vaincre la souffrance? Par la négation? Un chrétien ne souffre-t-il pas comme les autres? La souffrance est bien là, elle est réelle, on ne peut pas la nier. Par l'activisme, se lancer dans plein de projets, cela ne ferait que masquer la souffrance, mais elle revient et elle reviendra. L'amour est le seul remède pour soigner les blessures, toutes les blessures. Jésus est venu par amour. Il a souffert, mais il a continué à aimer. Notre souffrance ne peut être guérie qu'en regardant à l'amour de Christ, qui a souffert, qui a porté nos souffrances. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, dit le prophète Ésaïe. L'amour puissant l'amour infini du Seigneur l'amour est le seul capable de nous guérir. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, que ces paroles et ces pensées puissent nous accompagner toute cette année 2021, nous consoler, nous guérir, nous reconstruire, dans l'attente du retour de notre Seigneur. Amen.